bienvenue sur les ondes de Radio U à l'écoute de l'émission Horizon SF, dédiée à l'audiofiction et la vulgarisation de la science-fiction et de la science. Horizon SF se déroule en deux parties, la fiction sonore et un décryptage des sciences observées dans la fiction. Une pause musicale vous sera proposée entre les deux parties. Mais au fait, Horizon SF, c'est quoi ? Une émission de science-fiction qui diffuse l'audiofiction Quimper 2155, les chroniques de Loïc. Je suis Guillaume Volant, animateur SF, et je vous raconterai à chaque émission le Quimper de demain. Au travers d'un étrange artefact spatio-temporel venu du futur, celui de Loïc, habitant de Quimper en l'an 2155. Fiction sonore, premier épisode, les marées détraquées. Entrée 32, il est 6h42. Ce matin, quelque chose a fendu le silence. Pas un bruit violent, non, un frisson. Une sorte de vibration hésitante, comme un souffle qui s'éteint. C'était les digues électromagnétiques. Depuis ma fenêtre, le port semblait retenir sa respiration. La lumière grise glissait sur les structures d'énergie comme un voile froissé. J'ai senti monter en moi cette vieille angoisse, celle que j'avais oubliée, la sensation qu'un ordre invisible venait de basculer. Alors j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Sur les quais, il est 7h05. Le vent piquait comme des aiguilles fines. Au pied de la grande rambarde métallique, quelque chose a cliqueté. Un petit corps argenté, un poisson mécanique, l'un de ces sentinelles qui patrouillent sous la surface. Je me suis accroupi. La créature artificielle était encore chaude, comme si la vie, ou ce qui lui ressemble, venait de l'abandonner quelques minutes plus tôt. Je l'ai retourné dans ma main, des écailles d'acier terni, une odeur de métal brûlé. Ce n'était pas une panne, c'était une agonie. Derrière moi, les digues ont grésillé, comme si elles se tordaient sous une force invisible. Les digues, il est 7h12. En m'approchant, j'ai vu des vagues d'énergie se déformer comme les draps pris dans le vent. Les clignotements n'avaient rien d'humain, on aurait dit un cœur en arythmie. La mer cognait contre la barrière vibrante. Un choc, puis un autre, elle testait, elle attendait, et une idée absurde m'a traversé. La mer savait que quelque chose se brisait. Une rencontre, il est 7h18. Soudain, j'entends des pas rapides qui viennent vers moi. Une technicienne apparaît, le souffle haletant.
Hé, toi là-bas, recule de la barrière, c'est dangereux.
Pardon, pardon, je voulais juste voir ce qu'il se passe. Les poissons mécaniques, ils sont partout.
On sait, on reçoit des alertes depuis 4h du matin. Il y a des pannes sectorielles partout sur la ligne sud-ouest.
Des pannes ? Mais ces digues sont autonomes, autoréparantes.
Oui, justement, elles devraient se réinitialiser seules. Sauf que certains capteurs ont disparu.
Disparu ?
Arrachés du réseau, comme si quelqu'un les avait forcés.
Vous pensez que c'est un sabotage ?
Sabotage ou pas, si cela continue, Quimper va se faire engloutir.
Il est 22h40, c'est le crépuscule. Ce soir, le port n'était plus le même. Des dizaines de poissons mécaniques gisaient sur le sol comme une pluie de métal qui n'aurait jamais dû tomber du ciel. J'ai senti une panique diffuse, presque animale. Puis les digues se sont éteintes. D'un coup, comme une lumière qu'on souffle, la mer s'est avancée immédiatement. Pas une ruée, une marche lente et déterminée, presque cérémonielle. Les digues ont tenté de se rallumer. Trop tard. Un pan entier a cédé, s'effondrant comme un château de verre. J'ai couru, sans réfléchir. Je n'étais plus un témoin, j'étais un fuyard. Et alors que je m'éloignais, une pensée a martelé mon crâne. Quelqu'un aide peut-être la mère à reprendre ce qui lui appartient. La dernière chose que j'ai entendue fut le fracas d'une vague monstrueuse. Puis le noir. Non pas l'absence de lumière, mais l'impression qu'un chapitre venait de se refermer brutalement. Fin de la fiction. On vient d'entendre Les Marais Détraqués, le premier épisode de l'audiofiction Quimper 2155, Les Chroniques de Loïc. Notre héros assiste à la défaillance d'un système censé protéger la ville contre la montée des eaux. Et pour prolonger cette réflexion, nous recevons un auteur de science-fiction qui a imaginé la vie sur l'île de Saint en 2068, un territoire particulièrement exposé au dérèglement climatique. Bonjour Gilles Millinaire.
Et oui, bonjour Guillaume.
Et bienvenue sur les ondes de Radio U pour l'émission Horizon SF. rappelle juste donc que tu es l'auteur du roman Saint 2068 au-delà du dôme, mais je pense qu'il s'agit d'une trilogie dont tu nous parleras
un petit peu plus tard.
Tout à l'heure. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, voilà. Voilà. Donc je vais te poser plusieurs questions sur notamment la montée des eaux, okay, dans la partie décryptage en fait scientifique de l'émission Horizon SF.
J'attends la première question avec impatience.
On y va. Dans votre récit situé sur l'île de Saint en 2068, comment avez-vous imaginé l'évolution du niveau de la mer et ses conséquences concrètes sur le territoire ?
Alors tout d'abord, je me suis inspiré de ce que je vis au quotidien, année après année, lors de mes séjours à l'île de Saint, parce que je suis originaire de l'île de Saint, donc j'ai cette chance de pouvoir y aller en vacances très régulièrement.
D'accord.
Donc c'est vrai que pour ceux qui ouvrent les yeux lors des balades que l'on peut y faire, les changements sont déjà bien visibles à l'œil nu. Je connais très bien cette île puisque, en effet, j'y vais depuis déjà près d'un demi-siècle et j'ai pu constater de nombreux changements hiver après hiver. Alors, c'est vrai que sans être un météorologue averti, j'observe que les tempêtes qui s'enchaînent bien plus
fréquentes,
voilà, de façon bien plus fréquente que précédemment, que chacune d'entre elles, elle a tendance à creuser un peu plus profondément des plaies qui n'ont évidemment pas le temps de cicatriser puisqu'elles sont de plus en plus récurrentes hiver après hiver. Alors évidemment, ça fragilise les côtes et plus précisément celle de l'île de Saint. Et en effet, les coups de butoir de la mer font que il y a des vagues toujours plus hautes, plus fortes, plus récurrentes et que l'érosion des côtes forcément s'accélère. Alors c'est vrai que quand on connaît un petit peu l'île de Saint, on a un endroit qui est très plat sur l'eau, oui, et de fait on voit bien justement le constat qui est assez simple la surface se rétrécit hiver après hiver. Alors en fait on peut aussi se conjugue également aux éléments naturels que l'on connaît comme les changements climatiques, mais également la conjoncture économique, puisque
c'est lié.
Sur des îles et sur, on va dire, des communes de cette envergure ou de cette taille-là, en effet, il y a un vrai lien qu'on peut constater. Si vous y allez aujourd'hui à l'île de Saint, vous verrez que il y a un certain nombre de digues qui sont détruites ou en tout cas mal en point. Donc en effet, il faut aller chercher des fonds auprès du département, de la région, de l'État pour consolider ce qui devrait permettre aux Sénans de conserver leur autonomie. Alors pour combien de temps, ça c'est peut-être un développement qu'on aura un peu plus tard. Mais moi, ce que je peux constater à ce niveau-là, c'est que ce ne sont que des pansements. D'une, parce que les sommes qui sont débloquées sont pas forcément suffisantes pour des travaux de grande ampleur, et de deux, parce que la solution qui est abordée, moi je trouve qu'elle est abordée de façon plutôt superficielle, et qu'il y a essentiellement une vision à très court terme,
très court terme,
alors qu'il faudrait avoir en fait un vrai projet à long terme.
Vous trouvez que c'est dérisoire, quoi,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce... Je sais qu'il y a une partie des digues qui sont en cours de réfection. Bon, voilà, on va engranger des travaux. Ça va coûter un certain nombre d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros, payés par les collectivités. Mais au final, à la prochaine tempête, aux prochains hivers, on traite pas dans le fond. Voilà. Et je pense que dans les réflexions qu'on peut se faire aujourd'hui, c'est malheureusement le constat qui est valable pour l'île de Saint, mais qui est valable un peu partout. Pour revenir au sujet, sur un lieu comme l'île de Saint, qui a été colonisé, qui est habité depuis déjà bien des siècles, l'homme s'est adapté à son environnement qu'il a pensé, on va dire, immuable. Mais le réchauffement climatique et le siècle qui vient de s'écouler ont eu raison des certitudes passées. Alors aujourd'hui, en effet, certaines zones inondables ne permettent plus aucune construction, et pour les habitations qui ont vu le jour au cours des dernières décennies, elles disposent maintenant toutes d'un vide sanitaire, ce qui permet en fait de surélever le niveau de la maison. Oui, alors d'un petit mètre, quand on sait que le point culminant de l'île de Saint est de 9 mètres et que la moyenne est de 4 à 5 mètres. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, adapter l'habitat sur une île comme l'île de Saint, ça semble plutôt voué à l'échec.
Oui, c'est un peu vain.
C'est exactement tout à fait vain. Pour exemple, le terre-plein de l'arrière-port qui a été... comment dire, réhabilité à plusieurs reprises. On a rehaussé à chaque fois par des couches de béton supplémentaires. Aujourd'hui, par grande marée, avec des vents concordants, vous pouvez déchausser vos chaussures et puis traverser une faible épaisseur d'eau avant de monter à bord du bateau. Donc ça veut dire que... aux prochaines grandes inondations, on pourrait se dire que cette partie de l'île pourrait être totalement inondée et inhabitable.
Et inhabitable, voilà. D'accord.
Alors c'est vrai que moi je n'imagine pas, malheureusement, parce que et j'adore cet endroit-là, mais je n'imagine pas que on puisse conserver justement des habitants à l'île de Sein sur les prochaines...
prochaines années.
Ouais, prochaines années. Alors, je pense que sur les quelques décennies qui viennent, ou même la fin de ce siècle, ce sera jouable. Après, déjà, pourquoi est-ce qu'on voudrait conserver 100 ou 120 habitants à l'année sur ce petit bout de cailloux, voilà. Donc, je pense qu'en effet, il y a un coût vraiment très onéreux sur ce qui peut être ou ce qui devrait être mis en place pour pouvoir permettre de conserver ces gens-là sur ce bout de caillou. Donc l'inéluctable, si on parle de l'île de Sein et de la montée des eaux, ça va arriver, ça va continuer de grimper. Alors moi, le parallèle était assez facile, hein, parce que dans mon roman, j'ai choisi de traiter la montée des eaux en parallèle d'un virus, comme un événement qui ne laisse aucune autre possibilité que d'adapter notre habitat côtier. En effet, j'ai accéléré cette montée des eaux pour pouvoir cacher l'île de Sein sous un dôme. Et de fait, c'était assez simple pour moi de pouvoir, on va dire, traiter mon roman.
D'adapter le récit.
Exactement.
En fait.
Exactement. Et puis surtout, par la conjugaison des événements climatiques et du Covid, c'était une façon assez simple pour moi aussi d'éradiquer une partie de la population terrestre.
Tant qu'à faire.
Autant que ce soit plus simple à traiter.
Pensez-vous que les sociétés futures chercheront encore à se protéger coûte que coûte de la mer, comme dans notre fiction, ou devront-elles apprendre à vivre différemment avec elle?
Alors... Après, je trouve que c'est une question qui mérite justement de pouvoir opposer en fait technologie et adaptabilité. Hors fiction, je vais constater que la technologie dont nous disposons aujourd'hui, elle peut permettre d'anticiper des aspects météorologiques et ses conséquences pour les îles, les côtes. Mais le béton, aussi épais soit-il, il finira toujours par céder.
Il finira toujours, il lâchera, quoi.
Donc, on le voit, on le constate. Il suffit d'être un peu curieux, de se balader ici sur les bords de côte autour de chez nous. On voit bien que les digues et toutes les constructions ne font que retarder l'échéance, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la mer finit toujours par trouver son chemin. Donc, si elle ne peut pas passer frontalement, elle va creuser, elle va passer sur les côtés, elle va revenir, contournera, en effet. Alors, c'est vrai que l'énergie placée dans la préservation de nos habitats, elle est louable, notamment quand il s'agit de préserver des milliers, des millions, voire plus de personnes dans leur habitat. Mais aujourd'hui, avec le recul que nous avons quand même sur les changements climatiques et cette montée des eaux, n'est-il pas plus judicieux d'accepter l'inéluctable? Voilà, ça c'est une question que moi je me pose et qui est certainement...
Avec tout ce que cela implique, quoi.
Exactement. Alors évidemment, c'est mal connaître quand même, l'espèce humaine qui a plutôt tendance à vouloir se surpasser et qui en premier lieu tente de préserver ce qu'il a construit. Il repousse justement ces fameuses limites de l'acceptable. Alors c'est nos défis, et ça il faut en être conscient, d'essayer de faire plier aussi les éléments ou du moins de s'adapter du mieux possible à ces derniers. Mais on a quand même quelques milliers d'exemples sur Terre, aux abords des côtes, comme dans les Pays-Bas, avec un niveau de la mer qui est un niveau de la terre, pardon, qui est inférieur,
qui est inférieur au niveau de la mer.
Les îles de Polynésie française aussi, qui sont des terres très très basses sur l'eau, et on pourrait en trouver bien d'autres exemples. Ici, sur nos côtes aussi, on a quelques îles et quelques endroits. Vous prenez la Vendée, c'est très plat. Hein. Le jour où ça va monter, la Vendée va disparaître sous les eaux. Ça va devenir un grand marécage. Alors, est-ce que c'est viable dans la durée d'essayer de préserver cet endroit? Le temps nous le dira, mais moi, j'aurais plutôt tendance à pencher vers l'adaptabilité de nos habitats au détriment de la bétonisation.
Oui, alors, c'est ce que j'ai tendance à penser voilà. aussi, à s'adapter en fait.
Exactement, parce que je pense qu'en fait, notre adaptation, c'est ce dont on a fait preuve, nous, en tant qu'espèce humaine, quand même, depuis longtemps.
Depuis
en effet, on a essayé de contraindre certaines choses, mais malgré tout, je trouve qu'on a aussi cette capacité à pouvoir s'adapter. Alors, pourquoi pas assurer, par exemple, une certaine flottabilité de quartier, une réhausse des maisons via des plateformes sur vérin ou autre.
Oui, il y a de nombreux projets à ce sujet.
Exactement. Mais comment est-ce qu'on pourra mettre ça en place? À quel prix? Parce qu'en fait, on est aussi mené par ces coûts, justement, de réalisation.
Oui, et puis est-ce que ça serait viable aussi, quoi?
C'est toujours, on est bien d'accord. C'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir mettre en place... parce qu'on a les ingénieurs qu'il faut aujourd'hui, les maîtrises techniques et intelligentes hein, pour pouvoir mettre ça en place. Mais est-ce que ça tiendra? Ça, c'est une vraie question. Alors, en ce qui concerne l'île de Sein, on va revenir justement sur le sujet aussi. Il n'y a pas de milliers de solutions. Quelques réparations de digues vont permettre encore à Sein de résister plusieurs décennies. C'est ce que je disais il y a 5-10 minutes.
Ouais.
Mais si la mer continue son ascension de plusieurs centimètres, alors l'arrière-port... et la moitié de l'île de Sein sera sous les eaux. Et là, on ne parle que de quelques centimètres.
Alors, quelques centimètres, oui.
Quel prix, nous, on est prêt à payer pour préserver l'autonomie de quelques-uns? En fait, c'est aussi une grande question hein, sur tout ce trait de côte et toutes ces îles. Je n'ai pas la réponse, pas moi, mais bizarrement, je me fais pas trop d'illusions.
D'accord.
Je pense que voilà, ce sont des habitats qui sont voués, malheureusement, malgré tout, à disparaître.
À disparaître, ouais. Avec la montée des eaux, est-elle, selon vous, un défi technique ou surtout un défi culturel et politique dans la manière dont on habite les territoires?
Alors, là, c'est pareil. En fait, toutes les réflexions sont possibles, mais je dirais qu'avant tout, ça va dépendre de nos choix. Mmh. Alors, faisons en sorte peut-être qu'ils soient intelligents et surtout pleins de bon sens. Alors, en effet, un bon nombre de défis techniques nous attendent. Mais n'avons-nous pas davantage d'intérêt à accepter ce que la nature nous impose depuis toujours? Car à vouloir s'ériger parfois en maître de cette dernière, on en oublie un peu l'essentiel.
Tout à fait, oui.
C'est elle qui finira par se jouer de nous et non l'inverse. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincu. Hein, et ce n'est pas les événements passés qui pourront dire le contraire. Alors, en effet, hein, pour moi, on peut vouloir protéger, créer, inventer des solutions toujours plus folles. C'est peut-être gratifiant, mais comme je le disais tout à l'heure encore, pour combien de personnes sur cette planète, quoi? C'est
oui.
aussi.
C'est ça. C'est
je trouve que derrière, voilà, la montée des eaux traite aussi d'un vrai environnement, on va dire assez mini par rapport au niveau des terres.
Il faut une vision globale, parce que là on parle de l'île de Sein, mais il y a plein de, voilà. de territoires dans le monde qui sont face à cette situation.
Exactement. Alors c'est vrai que, comme je disais dans la première partie, on a souvent une vision à très court terme en fait.
Ouais.
On a un temps court et on a rarement un temps long.
Ouais.
Ce qu'on cherche, c'est évidemment de rester là où on est en fait aujourd'hui. Alors, en effet, le monde change. Hein. Le climat, avec ses conséquences, sont bien plus visibles qu'auparavant. Et
oui.
demain, une partie des habitats côtiers vont être rendus à la mer. Donc, c'est vrai que par rapport à tout ça, les constats qu'on pourrait faire, il faudra quand même accepter certaines choses, comme pourquoi pas de ne plus avoir sa résidence en front de mer, pleine vue
oui.
sur les îles Glénan ou sur d'autres horizons plutôt sympathiques.
Oui, il va falloir arrêter avec certains privilèges.
Exactement.
Quoi,
Ouais. Enfin, je pense, moi, aujourd'hui, et on le voit dans certains exemples, pas plus tard qu'il y a quelques mois, sur la commune de Tréfiagat, les Chiagates, où il y a eu 7 maisons qui ont été rachetées par la commune, et on a donc relogé les habitants, voilà, parce que, en effet, la mer a fait son travail de sape.
Ça a été très médiatisé, ouais, cette affaire.
Exactement.
Et beaucoup de gens sont allés justement sur le site voir comment ça se passait.
Et là, on parle de 7 habitations.
Voilà, on parle de 7 habitations. Donc,
On sait que sur la planète, il y a des millions de personnes sont concernées comme ça. Donc, c'est vrai qu'après, c'est pas toujours très simple. En effet, parce que souvent on habite des maisons qui peuvent être des maisons familiales avec une histoire, un passé qu'on n'a pas forcément envie de quitter. À l'inverse, ben voilà, c'est elle est où la raison ou elle est où la limite en fait dans ce que l'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on devra faire demain.
L'acceptation en fait.
Exact. Voilà. Et c'est vrai que la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts? Sommes-nous prêts à accepter ça?
Malheureusement, j'ai peur que non.
Mais bon, il y a un peu le diktat quand même oui. De l'argent et de la possibilité d'avoir toujours encore et encore cette maison ou cet appartement avec vue mère.
Oui, toujours voilà. Plus quoi.
Exactement.
Voilà. À présent, on va plus parler de votre quotidien d'auteur de science-fiction.
Oui.
Donc, quand vous écrivez un futur comme celui de 2068 hein, dans votre roman, partez-vous d'éléments scientifiques réels ou laissez-vous d'abord place à l'imaginaire?
Alors là, je pourrais vous faire une petite réponse de Normand.
Ouais, voilà, allez-y.
Un petit peu, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je vais m'efforcer d'être plus précis. Alors, je dirais les deux, hein, mon capitaine. Je m'appuie en premier lieu sur des faits, oui. Des constats. Puis je les accélère de façon, on va dire, exponentielle, un peu comme si je les mettais dans une centrifugeuse. Hein. Hormis un Covid destructeur, bon là c'était assez facile, hein, l'actualité oui. M'a bien aidé quand même sur ces dernières années, j'ai oui. Introduit une montée des eaux de 50 mètres sur une durée d'un demi-siècle.
D'accord.
Bon, j'ai vraiment... forcé le trait, j'ai accéléré la montée des eaux. Alors ça nourrissait évidemment mon roman et c'était plus facile pour moi. Donc en effet, il n'y a pas besoin d'être agrégé de mathématiques pour trouver, par rapport à ce que j'ai fait, une montée des eaux d'un mètre par an, là où aujourd'hui on va parler de millimètres, voire de centimètres.
D'accord.
Au max. Donc voilà, j'ai eu besoin de cette disproportion pour pouvoir asseoir mon roman. Et en effet, comme je cache l'île de Sein sous un dôme, je trouvais que c'était plus visible, ou en tout cas, l'image pouvait plus sauter aux yeux en la mettant 50 mètres sous le niveau de la mer. Voilà, comme ça, ça lui donnait aussi un double horizon avec lequel j'ai joué.
Oui, ce qu'on appelle aussi une image science-fictionnelle.
Exactement. Donc, voilà, je... Comme je vous le disais tout à l'heure aussi, voilà, il y avait d'un côté la montée des eaux, alors avec un trait de côte bien reculé, mais surtout aussi ben, le virus qui permet d'éradiquer une bonne partie de la population humaine. Et puis ça me permet, j'aime bien aussi pouvoir malmener mes personnages et de leur faire découvrir un monde plutôt nu.
D'accord, voilà. Une sorte de nouveau monde.
Exactement. Et donc, une fois que j'ai fait un peu tout ça, je me laisse aussi guider par mon imaginaire, bien sûr, hein, parce que c'est de la science-fiction, c'est de la dystopie. Et puis, j'utilise des outils, moi, que je trouve intéressants, qui m'ont bien aidé, comme Google Maps, que tout le monde connaît, et les cartes topographiques terrestres. Ça m'a permis de jauger, en fait, du niveau de la hauteur.
Des recherches, en fait.
Exactement. Et ça m'a permis de tracer aussi, moi, un itinéraire, un chemin sur les routes de France, avec une hauteur présumée de 50 mètres de l'océan qui s'infiltre dans nos terres françaises.
Oui, donc vraiment un travail d'expertise. Enfin
une vraie recherche. Et après, grâce à Google Maps, on peut suivre l'itinéraire et en fonction de l'itinéraire que je choisis ou qui m'est imposé par cette montée des eaux, eh bien, certaines villes, villages, bourgs ou maisons ou autres... m'amène à développer justement mon histoire. Voilà.
D'accord.
J'ai un plan de départ, un plan de fin, mais je me laisse un peu happer par justement mon imaginaire et tout ce que je peux rencontrer sur cette route.
Comment trouvez-vous donc l'équilibre entre crédibilité scientifique et liberté narrative dans vos récits?
Une sorte de... Alors plutôt assez simplement, ouais. Puisqu'aujourd'hui ce que j'ai introduit dans mon roman existe. Alors à une autre échelle,
oui,
comme on l'a vu juste avant. Oui. En effet, j'ai forcé le trait.
Forcé le trait, oui.
Donc à une autre échelle. Donc pour moi, c'est assez simple. J'ai mis un effet grossissant sur ce qui existe actuellement pour m'en inspirer et construire mon roman. Après, ce qui est intéressant avec la dystopie, c'est que on s'éloigne pas vraiment du réel. Au mieux, on le tord un peu, on le malmène, mais toujours, il reste derrière la porte. On n'est jamais très loin. Et me concernant, je voulais surtout que chacun puisse se retrouver acteur du roman. De fait, chaque lecteur peut se dire, tiens, voilà, moi, j'aurais pu être dans l'équipe et sauvage et de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Et ça, je trouve, c'est ça intéressant par ce travail, justement.
Cette introspection, en fait.
Exactement. Ouais. Et donc, pour ce faire, hein, j'ai juste modifié légèrement l'environnement qui reste possible, similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà. Et après, c'est... Alors, je sais pas comment travaillent tous les autres auteurs, mais moi, je me suis aussi rendu compte que quand on écrit son histoire, eh bien, à un moment, les personnages prennent un petit peu le pouvoir sur l'auteur. Et c'est eux, des fois, aussi, qui m'entraînent là où je ne pensais pas aller.
Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu en parlant avec des auteurs de science-fiction, que, effectivement, à un moment, les personnages prennent...
Le pouvoir.
Ouais, dictent le récit.
Exact. Ce que je n'avais pas eu sur mon premier tome.
Non.
Parce que c'était aussi mon premier livre, oui. En fait, abouti à ce niveau-là. Et c'est vrai que il était peut-être plus... maîtrisé, où j'avais peut-être un peu moins laissé de place à mes personnages pour s'émanciper.
Étouffé, ouais.
Ouais. Et ce que je retrouve dans le tome 2, en fait, voilà, dans cette suite, eh bien, des personnages qui prennent le pouvoir sur moi et qui vivent totalement leur vie dans le tome 3, qui sortira bientôt.
D'accord. Dans votre quotidien d'auteur, est-il influencé par les enjeux actuels comme le climat au point de transformer votre manière d'écrire la science-fiction?
Je dirais que oui, en effet, on peut répondre que par la positive en de la façon dont moi j'écris. Hein, parce que quand j'écris de la science-fiction dystopique, je me nourris forcément de ce que je vois.
Dans le réel.
Voilà, exactement. J'ouvre les yeux, les oreilles. On peut pas être insensible, en fait, à tout ce qui nous entoure. Hein. On voit les ravages des guerres et, en ce moment, les famines, les déplacements de population, le climat. Enfin,
oui,
voilà,
l'actualité.
L'actualité, elle nourrit, ceux qui ont un soupçon d'imagination. L'actualité du moment permet, de pouvoir développer son imaginaire
d'accord,
de façon exponentielle.
On a de bonnes bases, développer.
On est bien d'accord. Après, moi, le constat que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'on est tous passagers plutôt d'un véhicule que nous ne savons malheureusement pas conduire. Alors, quand on est auteur comme moi, comme j'ai la chance de l'être, les changements climatiques sont une aubaine, en fait, pour peu que vous ayez un peu d'imagination, comme je le disais à l'instant. Voilà, on se laisse bien influencer par ce qu'on voit et ce que l'on vit. Et en tout cas, cela fait écrire, hein, et pas que moi, parce qu'il y a énormément d'auteurs ou de réalisateurs qui s'inspirent de tous ces changements pour écrire d'autres romans, des BD, des scripts, des réalisateurs, enfin voilà, un paquet de films. On sait qu'aujourd'hui, la science-fiction et la dystopie, c'est un art à part entière.
Complètement.
Ouais. Et qui permet d'avoir, de laisser libre cours, en fait, à l'imaginaire de tous les auteurs. Et ça, je trouve ça plutôt génial.
Oui, moi aussi, j'aime beaucoup
cette idée. Ça n'empêche, évidemment, de faire passer des messages sociétaux de ce que l'on ressent au travers de nos personnages, parce que moi je trouve que voilà, dans ce que l'on vit au travers de ces romans-là ou de quand on écrit, en effet, il y a certains messages voilà que l'on essaie de faire passer, qui sont les nôtres. On peut aller puiser un peu partout dans l'imaginaire de ces personnes-là. Et après, on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce qui nous entoure, chaque bouleversement ouvre une brèche dans notre imaginaire. Et ça, c'est plutôt génial parce que c'est intarissable, inépuisable, puisqu'en tant qu'individu, on a tous des sensibilités différentes et une capacité à traiter un même sujet de façon opposée.
Voilà. Oui, tout à fait, oui.
Et c'est ça, moi, que je trouve important ou intéressant dans la science-fiction, en tout cas dans la passion que j'ai d'écrire des livres, c'est... ça rend en fait le possible infini. Et c'est vrai que la limite n'existe pas en tant qu'auteur.
On a l'impression que la limite, c'est le ciel, quoi, quelque part.
Exactement. Ouais. Le ciel, la mer, enfin voilà, on va la chercher où on veut, mais l'imagination permet vraiment de se faire plaisir. Quand on est auteur de science-fiction ou de dystopie, c'est plutôt assez génial, puisque deux sujets assez simples que l'on... On peut voir un peu tous les jours autour de nous, et bien on peut en faire quelque chose de aller presque possible demain, quoi.
Oui, c'est ça qui est qui est assez fascinant en fait en,
exactement,
en science-fiction. On va parler de votre actualité avant de conclure cette deuxième partie de l'émission Horizon SF. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité en fait autour de tes romans?
Eh ben, sorti du tome 1 il y a déjà 2 ans, sorti
d'accord,
du tome 2 il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, donc c'est toujours sous le même titre, hein, Saint 2068. Le premier tome c'était Au-delà
du dôme, voilà.
Le deuxième c'était Odyssée.
D'accord,
et le troisième va se nommer Les jours d'après et sortira allez, très prochainement. Voilà.
D'accord.
Je finalise le travail, je bosse dessus avec mon correcteur aussi, qui permet de m'apporter, voilà, une, on va dire quelques conseils. C'est aussi mon bêta lecteur. On a oui. besoin d'avoir un recul sur ce que l'on fait. Et puis, je trouve qu'une trilogie, quand on s'est amusé un peu comme moi, j'avais pu le faire jusqu'à présent, faut bien la finir. Donc, faut prendre le temps.
C'est
en
ça.
Effet.
Oui, oui. Puis, avec une sortie de roman, une sortie par an. C'est aussi un challenge.
Alors, c'est un gros challenge. Et en effet, sur le tome 3, hein, que j'ai commencé à écrire il y a déjà un peu plus d'un an, j'ai eu besoin d'une grande période de pause, en fait, pour bien repositionner mon histoire, mes personnages et pour finir l'histoire comme je le voulais.
Ouais, c'est toujours voilà. important de faire des pauses en écriture,
exactement.
En création.
Donc là, en effet, je suis en cours de fin d'écriture et de correction, on est en train de reprendre certaines choses, voilà, en fonction des conseils ou autres de mon bêta lecteur et correcteur. Après, je valide ou j'invalide. Voilà.
D'accord. Okay.
Mais j'ai l'histoire à écrite, finie, et j'espère pouvoir la sortir, aller peut-être courant de l'été.
Courant de l'été, d'accord.
Ouais, voilà.
Est-ce que vous avez des dates en fait de dédicaces à communiquer?
Alors aujourd'hui, elles étaient plus ou moins définies, mais j'ai modifié certaines choses. Après, normalement, si tout va bien, en effet, je peux en communiquer quelques-unes.
Oui.
Normalement, je serai à la librairie Arvro d'Audierne le samedi matin 18 juillet.
D'accord, 18 juillet.
Voilà. Après, souvent, on va me trouver à l'Île-de-Saint pendant ma période de congé où j'y serai sur les 3 premières semaines d'août où là,
bien évidemment.
En général, je suis une à deux fois en dédicace par semaine chez Marie-Annick.
Voilà, d'accord, oui.
Qui fait des petites ventes de souvenirs et autres objets liés à l'Île-de-Saint, à la mer, à l'environnement. Et normalement, après, je devrais être en dédicace... Allez, courant de fin de l'année, mais je pourrais préciser les dates
oui.
ultérieurement.
Oui, vous avez une page Facebook.
J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, on peut
d'accord.
retrouver toute mon actualité. Je ne communique en fait sur mes réseaux que sur ce que je fais en tant qu'auteur. En effet, en me suivant, on ne peut pas rater l'info.
D'accord.
Impossible.
D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, Gilles Millinaire, auteur de Saint 2068, pour votre expertise sur le sujet. La fiction nous montre une ville de Quimper futuriste, mais les thèmes écologie, vulnérabilité technologique, infrastructure hybride sont déjà les défis d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, Loïc plongera encore plus profondément dans les mystères de sa ville et de ce qui menace son avenir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.